Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en espagnol, Lucille Gimbert.
Buenas tardes.
4 ans après la disparition des 43 étudiants au Mexique, les familles contestent toujours la version officielle. Anya Stroganova de la rédaction russe.
Dobrый вечер.
Avec les suites de l'affaire Skripal et de l'enquête selon laquelle l'un des suspects serait un colonel du GRU. Et puis Hermine Roumilac de la rédaction chinoise.
Mira.
Pour la crise diplomatique et médiatique entre la Chine et la Suède. Bonsoir à vous toutes. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la candidature de l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, à la mairie de Barcelone.
Oui, c'est al próxim alcalde de Barcelone.
Manuel Valls, qui était député, a démissionné de l'Assemblée nationale française pour se présenter à Barcelone. Il va donc consacrer toute son énergie pour devenir le premier édile de cette grande ville d'Espagne. Forcément, la rédaction en espagnol de RFI a largement parlé de cela. Lucille Gimbert, vous êtes allée, vous, à la rencontre des Barcelonais pour savoir ce qu'ils pensent de cette candidature.
Oui, opportunisme ou audace, c'est la question que beaucoup se posent. La candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone, en tout cas, laisse un certain nombre d'habitants perplexes. Écoutons tout de suite quelques témoignages recueillis cette semaine dans la capitale catalane.
Yo pienso que es una manera de ser muy oportunista, aprovechándose de una situación, una convulsión muy grande.
Alors que vous ont dit ces Barcelonais?
Valls profite de la convulsion à Barcelone autour de l'indépendance. Il n'a aucune chance, dit l'un d'entre eux. C'est toujours bien d'avoir une alternative. Je vais voir son programme. En tout cas, j'en ai marre de tous les autres, affirme une autre. Il a échoué en France, alors Barcelone, c'est son bonbon, s'amuse un troisième. Alors après des primaires socialistes perdues et pas digérées, Valls s'est fait noyer dans la masse des députés du parti d'Emmanuel Macron en France. Défaite, rupture, nouvelle vie, nouvelle ville. À moins que ce ne soit l'inverse. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre s'ennuyait. Alors depuis un an, il a pris part au débat sur l'indépendance en Catalogne. Et au plus fort de la crise, il se prononçait déjà contre le projet indépendantiste.
Alors au bout du compte, est-ce que Manuel Valls a des chances réelles de devenir le prochain maire de Barcelone?
Alors ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas impossible non plus, compte tenu du système électoral local. Tout va dépendre de la fragmentation politique et des alliances postérieures au vote. La maire actuelle d'ailleurs, Ada Colau, a par exemple gagné avec 25% des voix. Valls reprend d'ailleurs sa formule en se présentant à la tête d'une plateforme citoyenne plus large qu'un parti. L'ancien ministre de l'Intérieur français a reçu l'appui du parti de centre-droit, libéral et europhile Ciudadanos. Ciudadanos, c'est la troisième force au conseil municipal de Barcelone et c'est l'une des formations politiques qui est sortie victorieuse des dernières élections au Parlement catalan. Catalan, je vais y arriver. Mais pour gagner, Valls doit et veut rassembler plus largement.
Et Lucille, qui Manuel Valls aura-t-il en face
Manuel.
De lui?
La gauche la plus radicale d'abord, celle de l'actuelle maire Ada Colau, dont la popularité est en baisse et dont la gestion commence à être critiquée. Et puis bien sûr, tout le camp indépendantiste qui raille déjà sa méconnaissance de Barcelone. La grande question est de savoir si ces différents partis indépendantistes parviendront à s'unir. Valls se veut le symbole d'une Europe multiculturelle, antidote au populisme. Depuis mardi, il alterne catalan et castillan avec aisance dans les médias espagnols. Mais pour gagner, il faudra réunir tout le spectre anti-indépendance. Les conservateurs du Parti Populaire pourraient avoir un résultat résiduel. C'est donc surtout l'appui du Parti Socialiste après les résultats au moment de former les coalitions qui pourraient être clés.
Hermine, j'aurais tendance à croire que ce sujet est exotique à Pékin, mais je vous pose malgré tout la question. Est-ce que la presse chinoise s'intéresse à cette candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone dont nous parlait Lucille?
Ah oui, exotique, bien sûr. Malgré le soupçon d'opportuniste de Valls, en fait, la presse chinoise s'intéresse beaucoup plus à un effet, c'est-à-dire que Valls possède double nationalité, donc française et espagnole. Parce que la loi chinoise interdit formellement la double nationalité. L'obtention d'une autre nationalité signifie pour un ressortissant chinois l'abandon automatique de la nationalité chinoise. Autrement dit, si Valls était d'origine chinoise, il n'aura aucune chance d'aller en Chine pour démarrer une autre carrière politique.
Bon, en tout cas, il est connu des Chinois.
Oui, parce que la presse chinoise suit depuis toujours de près la politique française. En plus, Valls a été très actif ces dernières années dans la vie politique en France, surtout depuis qu'il est devenu le ministre de l'Intérieur, ensuite Premier ministre, avant sa candidature malheureuse aux primaires du Parti Socialiste, etc. Il a été présenté par les médias chinois comme un homme fort du gouvernement Hollande et potentiellement présidentiel, en fait.
Anya Astroganova, à vue de Russie, est-ce que Manuel Valls a des chances pour gagner? Je vous pose la même question qu'à Lucille, mais donc avec un regard différent.
Les médias russes, évidemment, connaissent moins bien la situation, mais soulignent que pour l'instant, il est évidemment encore trop tôt pour juger ses chances et citent justement les médias espagnols selon lesquels Valls a son arme secrète, sa nouvelle compagne Susana Gallardo, l'une des plus riches héritières espagnoles, qui connaît tout le monde à Barcelone. Le site en ligne Gazeta Ru note également que Manuel Valls cherche à tout prix de revenir en politique, connu comme en politique de gauche en France. Il est perçu comme un candidat de la droite en Espagne. Pour un expert russe cité par ce média, Gazeta Ru, cela prouve évidemment la volonté de Valls de relancer sa carrière politique coûte que coûte.
Une carrière que nous détaillait tout à l'heure Hermine. Hermine, Emmanuel Valls, quelles sont les qualités qui lui sont reconnues?
En fait, pour la presse chinoise, il est considéré comme un politicien ambitieux, doté d'un caractère dynamique, actif, voire courageux, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir. C'est aussi pendant une de ses visites en Chine, il s'est montré aussi sa capacité de langue. Écoutez, il a parlé en chinois.
Je l'ai dit à Berlin en allemand, à Londres en anglais. Évidemment, le dire en chinois, c'est plus difficile pour ce qui me concerne. Enfin, on a bien préparé les choses. Et je le dis ici à Shanghai, Huan in Lai Fa Guo, je pense qu'ainsi le message est clair.
Et ça veut dire quoi?
Bienvenue en Chine, en fait. Donc, il a parlé avec des hommes d'affaires chinois. Donc, il a dit bienvenue en France pour investir en France.
Hermine, vous avez connu Manuel Valls comme maire?
Oui.
Hein, j'habitais à Ivry.
Oui. En fait,
parce que vous habitiez à Ivry.
Oui, j'habitais à Ivry. Je raconte pas toute ma vie, mais quand il a été le maire d'Ivry, j'habitais à Ivry, et il a été un maire très présent. Il venait faire le tour de l'école pour rencontrer les parents et les enseignants à chaque rentrée de la rentrée scolaire. Je l'ai croisé aussi une ou deux fois à l'occasion d'autres événements dans les villes. Il avait l'air vraiment, vraiment très proche de ses habitants. Et pour la gestion de la ville, il a toujours privilégié les quartiers difficiles, construisant des écoles maternelles et les primaires, et aussi installer des structures sociales comme BMI ou des luthothèques dans ces quartiers. Et si pendant les émeutes des banlieues en 2005, Évry a été très très calme, on disait que c'est grâce à Valls, à ses administrations dans les villes en fait. Mais Barcelone n'est pas Évry.
Anya, l'annonce de la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone fait faire un parallèle à la presse russe.
C'est ça, la presse russe compare le destin de Manuel Valls à celui de l'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili, qui après avoir quitté la présidence s'est reconverti en gouverneur de l'oblast d'Odessa en Ukraine. Contrairement à Valls, qui a des origines espagnoles, Saakashvili n'a pas d'origine ukrainienne. Il a été naturalisé ukrainien par le décret présidentiel. Il a renoncé à son passeport géorgien car la Géorgie, tout comme la Chine, ne reconnaît pas la double nationalité.
Mikhail Saakashvili a connu ensuite un destin mouvementé au poste de gouverneur d'Odessa.
Pour ne pas dire plus, il a été nommé gouverneur de cette région qui était l'une des régions les plus corrompues de l'Ukraine. Il devait la rendre exemplaire, il ne l'a pas réussi et donc il a choisi de quitter ce poste et a accusé le président ukrainien Petro Poroshenko de ne pas lutter contre la corruption. Poroshenko a riposté et a déchu Saakashvili de sa nationalité ukrainienne.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans Action du Monde sur la candidature de Valls à la mairie de Barcelone. Vous écoutez Radio France Internationale.
20 heures Paris.
Action du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. Cette semaine, Lucille Gimbert de la rédaction hispanophone, vous nous parlez du Mexique. Au Mexique, voilà déjà 4 ans que les 43 étudiants d'Ayotzinapa dans l'état du Guerrero ont disparu. 4 ans que leurs familles se battent pour qu'on les retrouve. Une affaire qui continue de hanter le Mexique parce qu'elle illustre un problème endémique du pays, la collusion entre autorités politiques et crimes organisés. Et mercredi, à l'occasion de cet anniversaire, le président a rencontré les familles, promis la création d'une commission d'enquête. Lucille, son but à cette commission d'enquête sera de faire enfin toute la lumière sur cette affaire.
Oui, parce que la version officielle de ce qui s'est passé, la version soutenue par l'actuel gouvernement du président Enrique Peña Nieto, est contestée non seulement par les familles, mais aussi par les Nations Unies et par des experts internationaux. D'après les autorités mexicaines, les 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa ont été arrêtés dans la nuit à Iguala sur ordre du maire parce qu'ils s'emparaient de 5 autobus pour aller manifester à Mexico. Les policiers les ont ensuite livrés au cartel des Guerreros Unidos qui les aurait confondus avec des rivaux et qui les aurait tués avant de brûler leur corps dans une décharge et d'en jeter les restes dans une rivière.
Oui, enfin c'est une version qui est qualifiée d'intenable par les Nations Unies.
En effet, et en 2015 déjà, un rapport d'experts indépendants de la Commission interaméricaine des droits de l'homme avait contesté cette version officielle. Pour la CIDH, il est impossible qu'autant de corps aient été brûlés à cet endroit. L'ONU et les ONG ont aussi dénoncé de nombreuses irrégularités dans l'enquête, des témoignages obtenus sous la torture, des preuves fabriquées. Alors qu'est-ce qui peut-être s'est passé? Certains experts indépendants pensent que les étudiants ont pu être attaqués après avoir détourné par inadvertance un bus qui était chargé d'héroïne à destination des États-Unis. Tout s'est passé, rappelons-le, dans l'état de Guerrero où les cartels se disputent violemment le contrôle des routes de la drogue.
Alors comment ont réagi les familles à l'annonce de la création de cette commission d'enquête à laquelle elles seront associées?
Oui, c'était leur revendication principale. Je vous propose d'écouter la réaction du père de l'un des disparus. Son nom, Epifanio Álvarez. Son fils avait 19 ans lorsqu'il a perdu sa trace.
Sentimos una gran esperanza y que así va a ser.
Alors que dit ce père dans le deuil?
Nous ressentons un grand espoir et il faut qu'il en soit ainsi parce que sinon personnellement je préfère mourir plutôt que de continuer de voir tous ses parents se débattre dans la douleur. Je sens tellement de rage pour tout ce temps perdu. Voici donc les mots d'Epifanio Álvarez juste après la rencontre des familles avec le nouveau président élu, celui de gauche, Andrés Manuel López Obrador, qui doit prendre ses fonctions le 1er décembre prochain. Le futur chef d'État a donc promis une commission d'enquête à laquelle vont participer les familles, mais aussi des associations de droits de l'homme, et c'est très important, des organismes internationaux, tout ça en plus des institutions mexicaines. C'est déjà ce que demandait un tribunal mexicain, mais le parquet avait fait appel.
Alors les familles, les organisations de défense des droits de l'homme espèrent beaucoup désormais.
Oui, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de prudence, car jusqu'à maintenant, la corruption et la collusion des autorités politiques et avec les trafiquants de drogue et le crime organisé n'ont pas de couleur politique au Mexique. Tous les partis trempent et le système judiciaire est garant de l'impunité dans de nombreuses affaires. Par exemple, l'état de Guerrero, où tout s'est passé, était dirigé à ce moment-là, au moment de la disparition des 43 étudiants par la gauche.
Voilà, Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol de RFI. Je le disais en titre, les relations diplomatiques entre la Chine et la Suède traversent une très profonde crise. Depuis 10 jours, les événements s'enchaînent. Hermine Roumilac, vous travaillez la rédaction chinoise de RFI. Expliquez-nous ce qui se passe.
C'est très compliqué à expliquer. Donc, pour faire simple, en apparence, en fait, cette crise est déclenchée par un incident entre des touristes chinois et la police suédoise. En fait, les faits remontent à 2 septembre dernier, vers minuit ou 1h du matin, on ne sait pas trop l'heure précise. Un couple de touristes âgés et leur fils d'une trentaine d'années se présentaient à un hôtel de Stockholm où ils ont réservé une chambre, mais que pour la nuit suivante. L'hôtel a accepté qu'ils passent la nuit dans le lobby, mais quand le fils est revenu avec une autre femme, l'hôtel a changé d'avis et ils ont demandé à la police de les déloger. Donc la vidéo postée sur les médias chinois 2 semaines après l'incident a fait rapidement le tour sur les réseaux sociaux chinois.
Quels sont ces cris?
C'est le fils qui pleurait, il criait aussi « c'est un meurtre » en anglais et sa mère était assise par terre en pleurant et en criant au secours en chinois, tandis que le père de la famille est amené par 2 policiers suédois en dehors de l'hôtel. Cette vidéo a déclenché bien sûr immédiatement la colère des internautes chinois, tandis que les autorités chinoises demandent officiellement une enquête.
Alors une enquête qui a commencé, quels en sont les premiers résultats?
Le gouvernement suédois a répondu à Pékin qu'il n'y a eu aucun comportement illégal de la part des policiers présents ce soir-là et en même temps, d'autres faits de cet incident ont été révélés, montrant que les fautes viennent d'abord peut-être des touristes chinois et ils ont aussi exagéré, voire menti sur les faits de ce soir. Et par contre, lorsque l'opinion publique a commencé à soupçonner, à détourner que c'est la manipulation des médias chinois d'État, une émission satirique de la télévision suédoise a relancé la polémique d'une manière plus virulente.
De quelle manière ?
En fait, pour le comprendre, le mieux c'est d'écouter un extrait de l'émission.
尊敬的中国游客，欢迎您来到瑞典。
On a besoin de votre traduction.
Oui, le message est adressé aux respectueux touristes chinois, mais les Chinois sont pris de respecter les coutumes locaux, comme ne pas faire ses besoins en dehors des bâtiments publics. Et contrairement aux Chinois qui sont racistes, les Suédois respectent tout le monde sans faire la distinction de la couleur de peau ni de leur orientation sexuelle, mais cette règle ne s'applique pas aux Chinois. Et si les Chinois sont de passage, ils auront des fessées. Voilà, c'est très humiliant.
Et depuis, les deux pays s'envoient systématiquement des pics, ce qui peut paraître étonnant parce que les relations entre les deux pays se sont donc entachées ces derniers jours, oui. Alors que la Suède a été le premier pays occidental à reconnaître la Chine populaire, c'était en 1950. Il est difficile d'imaginer que la Chine puisse, et la Suède, sacrifier, oui, tout cela sur l'autel d'une dispute commerciale.
Oui, c'est ce que pensent la plupart des observateurs, en fait, puisque la date de la révélation de cette affaire des touristes coïncidant d'abord avec la visite de Dalai Lama en Suède. Donc c'est le tabou absolu pour Pékin. Mais selon une écrivaine chinoise, Madame Molly, qui est résidente en Suède, le vrai nœud entre Pékin et Stockholm se trouve plutôt dans l'affaire de libraire hongkongais Gui Minghai. Gui Minghai, il a obtenu la nationalité suédoise en 1992.
Il avait été kidnappé en 2015.
Oui, 2015, en octobre. Alors, donc on écoute son explication plutôt. Elle a dit, depuis quelques années, le gouvernement suédois a épuisé leurs moyens pour sauver ce libraire qui est emprisonné en Chine puisqu'il est citoyen suédois, mais le gouvernement suédois exerce ses devoirs pour sauver son citoyen. Ça a causé toujours des conflits avec Pékin. Donc, pour le gouvernement suédois, le gouvernement se voit protéger ses citoyens et protester contre son
accréditation. Et c'est donc une deuxième affaire dans l'affaire avec donc cette tension entre la Chine et la Suède. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Venons-en maintenant à ce rebondissement spectaculaire dans l'affaire Skripal. Le site internet d'investigation Bellingcat affirme que l'un des suspects russes serait un colonel du renseignement militaire russe, le GRU. Anna Stroganova, vous avez lu tout cela avec beaucoup d'attention. Donnez-nous plus de précisions.
Selon The Bellingcat, en collaboration avec un autre site d'investigation russe et Insider, Ruslan Boshirov, l'un des deux suspects dans l'affaire d'empoisonnement à l'agent Novichok, identifié par Londres, s'appelle en réalité Anatoly Chepiga. Bellingcat et The Insider publient une photo de son passeport datée de 2003, ainsi qu'une photo de lui prise lors de sa mission en Tchétchénie. Selon les journalistes d'investigation, il est né en 79 à Nikolaevka, c'est un petit village à la frontière russo-chinoise. Il a fait des études dans une académie militaire de la région et ensuite a commencé son service au sein de GRU.
GRU, donc le renseignement militaire russe. Comment est-ce que les autorités russes réagissent à ces révélations ?
En niant, il n'y a aucune preuve, dit la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Et de son côté, le porte-parole du Kremlin explique que c'est difficile de démêler le vrai et le faux et fustige encore les médias de publier les faits qui ne sont pas crédibles.
Et le 12 septembre, Poutine déclarait que les deux suspects étaient de simples civils. Et c'est au lendemain de cette déclaration du chef du Kremlin que les deux hommes ont été interviewés par la rédactrice en chef de RT.
Oui, une parfaite mise en scène. Margarita Simon, la rédactrice en chef de RT, affirme que Ruslan Boshirov, qu'on sait désormais qu'il s'appelle Anatoly Chepega, Alexandre Petrov, l'ont contacté eux-mêmes après avoir trouvé son numéro de portable sur Internet, parce que c'est simple. Et je vous propose que l'on écoute un extrait de cette interview où il leur pose justement cette question. Travaillez-vous pour le GRU ?
Vous travaillez au GRU ?
Ah, vous travaillez au GRU ?
Oui, non, ah oui.
Donc, travaillez-vous pour le GRU? Et vous? Moi, non, mais contrairement à vous, on ne m'accuse pas de travailler pour le GRU. Nous non plus, nous ne travaillons pas pour le GRU. Où travaillez-vous à l'heure? Donc, et là, ils refusent de parler de leurs affaires pour ne pas nuire à ceux qui travaillent avec eux. Et ils expliquent qu'ils travaillent dans l'industrie du fitness, la nutrition sportive.
Oui, ça n'a rien à voir avec l'assassinat politique. Est-ce qu'on sait quelque chose de plus concernant le deuxième suspect qui a pour nom, donc, Alexandre Petrov?
Non, rien pour l'instant, mais Bellingcat promet de révéler son identité dans les semaines qui viennent.
Et vous suivez tout cela, bien évidemment, la rédaction en russe avec beaucoup d'attention, parce que cette affaire Skripal, on n'a pas fini d'en parler et d'en reparler sur les antennes de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde. Un mot, puisque Lucille Jamais est avec nous, pour saluer bien le premier anniversaire de France 24 en espagnol. France 24,
Feliz cumpleaños.
Qui est partenaire avec RFI au sein de France Média Monde.